Radio France Internationale, 15h ici à Paris, 13h en temps universel. Dernière partie de RFI Midi, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure consacrée à l'actualité d'Haïti et du continent américain. Comme tous les jeudis, on est en ligne avec Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste, et on évoquera avec lui la demande officielle à l'ONU de la transformation de la mission multinationale d'appui à la sécurité en une mission de maintien de la paix des Nations Unies. On revient aussi en longueur sur la campagne de l'élection présidentielle aux États-Unis. Insultes, invectives, nouvelles accusations, désinformations, la pression et le ton montent dans les deux camps. Et comme tous les jours cette semaine, on décrypte un point du programme des candidats. Ce sera l'avortement aujourd'hui. Et puis l'actualité des Outre-mer. Malgré le couvre-feu, les nuits restent toujours très agitées en Martinique, notamment sur la côte ouest. Et on évoquera cela avec vous, Benoît Ferrand.
À Casse-Pilote et Shelcher, notamment, barricades enflammées et affrontements avec les forces de l'ordre font désormais partie intégrante du quotidien. Nous entendrons tout à l'heure un reportage en direct de nos confrères de la Première Martinique.
À tout à l'heure, Benoît Ferrand, on vous appelle dans 20 minutes. Et d'abord le journal avec à la une la campagne présidentielle aux États-Unis qui bat son plein à une dizaine de jours du vote, Gilles Moreau.
Oui Stéphane, avec parmi les temps forts du jour aux États-Unis, le camp démocrate qui mobilise ce soir près d'Atlanta en Géorgie, c'est l'un des états clés, l'un de ceux qui pourrait faire la différence le 5 novembre. Derrière Kamala Harris, le camp démocrate jette ce soir toutes ses forces dans la bataille avec ses meilleures têtes d'affiche. Reportage de notre correspondant Guillaume Naudin.
Cette fois, il n'est plus question d'économiser ses cartouches. Alors la campagne Kamala Harris propose ce qu'elle a de mieux en stock pour accompagner la candidate. Pour la première fois depuis l'investiture à Chicago, elle aura à ses côtés Barack Obama. L'ancien président s'est lancé dans une tournée des États-clés pour mettre sa popularité, son charisme et sa capacité de mobilisation au service de Kamala Harris, qui est toujours dans une course très serrée avec Donald Trump. Comme si cela ne suffisait pas, la campagne mobilise aussi son carnet d'adresses dans l'industrie du spectacle, soutien traditionnel du camp démocrate, le chanteur Bruce Springsteen, un proche de Barack Obama, sera là aussi. Le boss de la scène rock américaine depuis 50 ans, habitué des concerts dans les stades, ne sera pas dépaysé. Il chantera pour ce rassemblement organisé dans un stade de football américain typique des rencontres au niveau local, pouvant accueillir 15 000 personnes en configuration match, mais sans doute bien plus en occupant la pelouse. Il s'agira évidemment de relancer une impression d'enthousiasme, impression qui s'est un peu tassée depuis l'entrée en campagne, l'investiture et le débat victorieux de Kamala Harris face à Donald Trump. Guillaume Naudin, Washington, RFI.
À une dizaine de jours du vote, la marge entre les deux candidats est donc très faible dans tous les états pivots et le verdict des urnes s'annonce serré. L'un des derniers sondages parus dans le Financial Times donne Donald Trump favori sur le terrain de l'économie, qui est une thématique charnière. Les milieux d'affaires, eux, se préparent à une victoire du candidat républicain, Anne Verdaguer.
Dans la dernière ligne droite de la campagne électorale américaine, changement de braquet du côté des milieux d'affaires. La remontée spectaculaire de Donald Trump dans les sondages incite les investisseurs à se positionner comme s'ils anticipaient sa victoire. Un phénomène appelé le Trump Trade sur les marchés qui anticipe une relance significative de la croissance américaine, mais aussi un retour de l'inflation. Les gérants de fonds, eux aussi, réajustent leur portefeuille. Il faut dire que le discours America First du candidat républicain a de quoi rassurer les grands patrons. Déréglementation, baisse de l'impôt sur les sociétés, relocalisation de l'industrie. Un second mandat du candidat républicain pourrait contribuer à maintenir une croissance à deux chiffres des bénéfices des grands groupes. Côté électeur, le discours protectionniste de Donald Trump fait mouche et le candidat républicain reste favori dans les sondages sur les questions économiques. Des électeurs qui déplorent toujours le coût élevé de la vie laissé par la flambée de l'inflation depuis 4 ans et qui continuent de peser lourdement sur leur morale de consommateur.
Anne Verdaguer du service économie de la rédaction. À Moscou, les députés russes ont voté ce matin à l'unanimité la ratification du traité sur le partenariat stratégique avec la Corée du Nord. Ce vote de la Douma intervient au moment où les Occidentaux disent avoir les preuves que Pyongyang a déployé des milliers de soldats en Russie. De son côté, le président sud-coréen déclare que son pays ne restera pas les bras croisés face à ce déploiement.
Et alors que de violents combats continuent au Proche-Orient, Gilles Moreau, Paris accueille une conférence internationale d'aide au Liban.
Oui, l'objectif de cette conférence est de mobiliser d'aider la communauté internationale et de réunir une somme conséquente. On vient d'apprendre que ce serait 800 millions de dollars d'aide à la population libanaise déplacée par le conflit entre Israël et le Hezbollah. À l'ouverture des travaux ce matin, Emmanuel Macron a réclamé de l'aide pour permettre aux Libanais de retrouver le contrôle de leur destin. À ce titre, Paris débloque 100 millions d'euros pour le pays du Sahel. Tout de suite, un extrait du discours du président français qui a de nouveau réclamé un cessez-le-feu dans la région.
Je regrette amèrement que l'Iran ait engagé le Hezbollah contre Israël alors que l'intérêt supérieur du Liban commandait qu'il se tienne à l'écart de la guerre de Gaza. Je regrette qu'Israël poursuive ses opérations militaires au Liban et que le nombre des victimes civiles continue d'augmenter. Je regrette enfin que l'appel que le président Biden et moi-même avions lancé le 25 septembre dernier pour obtenir une pause de 21 jours n'ait toujours pas été entendu. La nécessité demeure que le Hezbollah mette fin à ses attaques contre Israël, quel qu'en soit le prétexte. Donc il faut cesser le feu et définir sans attendre les mesures qui doivent être prises pour établir un calme durable le long de la ligne bleue et permettre aux populations déplacées, au Liban comme en Israël, de retourner dans leur foyer en toute sécurité.
Emmanuel Macron à la conférence d'aide internationale au Liban qui se tient donc aujourd'hui à Paris, propos recueillis par Julien Chavannes. L'armée libanaise a fait savoir ce matin que 3 de ses soldats, dont un officier, avaient été tués par des tirs israéliens dans le sud du pays. L'armée israélienne, elle, affirme avoir visé des dépôts et des ateliers de fabrication d'armes appartenant au Hezbollah. Côté américain, le secrétaire d'État annonce une nouvelle aide de 135 millions de dollars pour les Palestiniens de la bande de Gaza et de Cisjordanie occupée. Anthony Blinken poursuit sa tournée dans la région. Il est actuellement au Qatar. Il déclare s'attendre à ce que les négociateurs se réunissent dans les prochains jours pour tenter de parvenir à une trêve à Gaza.
RFI 8h06 à Akali, la suite du journal avec Gilles Moreau. La COP16 sur la biodiversité qui s'y tient en Colombie. Avec des discussions qui continuent, Gilles.
Oui, 196 pays précisément sont réunis pour tenter de s'entendre sur la mise en œuvre d'un objectif ambitieux, protéger 30% des terres et des mers de la planète d'ici à 2030. À Cali, les négociateurs ne sont pas encore entrés dans le dur. La conférence ne fait que commencer. Mais déjà, Élodie Papin, quelques annonces à relever.
Une bonne nouvelle pour commencer. Au large du Portugal, la région autonome des Açores vient d'approuver la création du plus grand réseau d'aires marines protégées de l'Atlantique Nord. Il couvre 30% des mers entourant l'archipel et la moitié est sous protection intégrale, c'est-à-dire que la pêche et toute extraction de ressources naturelles y sont interdites. Malgré cette décision des Açores, beaucoup reste à faire. Seuls 3% de la surface des océans de la planète sont sous protection haute ou intégrale.
Les défenseurs de l'environnement paient un lourd tribut à leur cause.
La présidente de la COP, Susana Mohammad, s'est alarmée ce mercredi de leur sort, alors qu'un rapport révélait que 362 d'entre eux ont été assassinés ces 6 dernières années en Colombie. Elle a appelé à considérer la lutte environnementale comme une cause légitime. Elle s'est par ailleurs montrée optimiste sur l'issue des négociations de la conférence. Elle espère que des décisions majeures pourront être prises dès vendredi, lors de la première séance plénière. Les États doivent porter à 200 milliards de dollars par an les financements pour la nature d'ici 2030. Et nous sommes loin du compte. Les pays riches, en particulier, doivent doubler leur contribution annuelle.
Élodie Papin du service environnement de la rédaction, merci à vous. En Inde, plus d'un million d'habitants sont en train de quitter la côte orientale pour rejoindre des abris à l'intérieur des terres. La population se prépare à l'arrivée d'un puissant cyclone, le cyclone Dana, qui devrait frapper tôt vendredi matin. Enfin, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, est en Albanie aujourd'hui. Première étape d'une tournée de 4 jours dans la région des Balkans occidentaux. Elle n'a oublié personne puisqu'elle se rendra dans chacun des 6 pays candidats à l'Union européenne. L'occasion de rappeler les conditions posées par Bruxelles à une éventuelle adhésion, convergence économique et sociale, mais aussi convergence diplomatique. Certains pays comme la Serbie sont jugés encore trop proches de la Russie. Les piles 15h09 ici à Paris. Je vous laisse en compagnie de Stéphane Genest.
C'était le journal avec Gilles Moreau. Merci beaucoup Gilles.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
L'opposition vénézuélienne a l'honneur au Parlement européen de Strasbourg. Le prix Sakharov, la plus haute distinction européenne pour les droits humains, a été décerné ce jeudi à Maria Corina Machado et Edmundo González Urrutia, qui sont respectivement chef et candidat de l'opposition à la dernière présidentielle de juillet. Élection qui, je le rappelle, a vu triompher officiellement Nicolas Maduro. Maria Corina Machado, elle, vit encore au Venezuela dans la clandestinité. Edmundo González Urrutia s'est quant à lui réfugié en Espagne depuis maintenant plus d'un mois. Écoutez la réaction d'Antonio Ledezma, ancien conseiller de la campagne de Maria Corina Machado et lui-même lauréat du prix Sakharov en 2017.
J'ai parlé à Maria Corina ainsi qu'à Edmundo, et tous les deux s'accordent à dire qu'il s'agit d'un succès pour les millions de Vénézuéliens qui se battent pour retrouver la liberté. C'est une récompense. D'une certaine manière, ce prix reconnaît la lutte épique du peuple vénézuélien. C'est une reconnaissance des prisonniers politiques et un signe que le monde est conscient de la lutte que les Vénézuéliens mènent à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Plus que leur bien-être personnel, ce qui préoccupe Maria Corina et Edmundo, c'est le rétablissement de la paix et de la sérénité au Venezuela. Ce prix est une façon de dire au gouvernement du monde libre qu'il faut reconnaître la victoire d'Edmundo González. Ce prix doit être comme l'écho d'un peuple qui crie à l'aide. C'est là toute la valeur de ce prix.
Et Edmundo González Urrutia vient de réagir. Il se dit honoré, reconnaissant et remercie l'Europe pour sa profonde solidarité avec le peuple vénézuélien. Dans son message, il affirme également que le combat pour la démocratie au Venezuela n'était pas terminé. Edmundo González Urrutia qui explique avoir une pensée pour Maria Corina Machado, pour les Vénézuéliens et pour les prisonniers politiques. Depuis l'élection présidentielle de la fin du mois de juillet, le nombre de prisonniers politiques est passé de 300 à 2000.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Dans la capitale haïtienne, où il est 9h11, l'actualité en Haïti, avec comme chaque jeudi le rédacteur en chef du Nouvelliste qui est en ligne avec nous. Bonjour Franz Duval.
Bonjour Stéphane.
Haïti demande officiellement à l'ONU la transformation de la mission multinationale d'appui à la sécurité en une mission de maintien de la paix et des Nations Unies.
Tout à fait, c'est une demande officielle. C'est le président Leslie Voltaire qui préside le Conseil présidentiel de transition et qui a écrit au secrétaire général des Nations Unies le 21 octobre dernier. Haïti demande la transformation de la mission déployée actuellement sur place en mission de maintien de la paix des Nations Unies, car visiblement, la mission ne peut pas donner les résultats escomptés parce qu'il n'y a pas assez d'hommes, il n'y a pas assez d'argent, il n'y a pas assez d'équipement. Et en réalité, il n'y a pas assez d'engagement de la communauté internationale d'une manière générale, derrière cette mission. Il y a surtout et presque seulement les États-Unis qui sont impliqués. Et malheureusement, on n'a pas assez d'effectifs. On ne peut pas aller loin avec la mission telle qu'elle est dessinée actuellement. Il faut passer à autre chose. Et Haïti a fait la demande. On espère que cela aboutira du côté haïtien.
Une demande, France, qui est faite alors que la police haïtienne intensifie ses opérations contre les gangs dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince et dans le département de l'Artibonite.
Effectivement, la police, pour une fois, avec des éléments des forces armées d'Haïti, avec les Kenyans, multiplie les opérations à plusieurs points du territoire. Sauf qu'à chaque fois, ce sont des réponses et c'est plutôt pour essayer de contrecarrer les gangs. Et souvent, on ne peut pas connaître les bilans réels de ces opérations parce qu'il n'y a pas une frontière établie, il n'y a pas des troupes disposées sur le terrain. À chaque fois qu'on court après les gangs, ils se font dans la nature et on ne sait pas vraiment derrière qui on court. Mais à chaque fois, la police, ces derniers jours, a répondu à essayer de mettre fin à des incursions des gangs dans de nouveaux quartiers, dans de nouvelles villes, dans de nouveaux villages. Et la police marque des points.
Et sur le plan politique, France Duval, toujours autant de fritures sur la ligne entre le Conseil présidentiel de transition et la primature. Le courant ne passe pas et le blocage, donc, il persiste.
L'impasse est totale, l'impasse est parfaite. Le Conseil présidentiel de transition souhaite remanier le gouvernement. Le Premier ministre Garry Conille s'y oppose catégoriquement. On n'a même pas pu faire de conseil des ministres, car personne ne veut s'asseoir avec qui que ce soit. Conille veut amener tous ses ministres. Le CPT demande que le remaniement soit fait. Pour le moment, Haïti est sur pilotage automatique, car les deux branches de l'exécutif n'arrivent pas à s'entendre ni à s'asseoir dans une même salle pour essayer de parler et de résoudre le problème.
Et donc, dans votre édito, aujourd'hui, dans le Nouvelliste, Franz, vous vous interrogez, comment sortir de l'impasse? Qui va proposer une solution?
Constitutionnellement, il n'y a pas de recours. Il n'y a pas de recours non plus avec l'accord du 3 avril qui, en principe, fixe le cadre de la transition, mais cet accord n'a jamais été publié dans le journal officiel Le Moniteur. On y réfère, mais c'est seulement de façon anecdotique. Aujourd'hui, on ne sait pas si c'est la communauté internationale qui avait aidé à monter le mécanisme CPT Premier ministre qui va essayer d'aider encore une fois à dénouer la crise, mais il y a un passeport fait pour le moment. On ne sait pas comment cela va finir.
Merci beaucoup, Franz Duval, rédacteur en chef du Nouvelliste. On vous lit sur le site du Nouvelliste, lenouvelliste.com. Merci à vous d'avoir été en ligne avec nous. On vous retrouve jeudi prochain.
RFI,
The World's Voices.
On part aux États-Unis, dernière ligne droite pour les deux principaux candidats à l'élection présidentielle. Donald Trump est aujourd'hui en Arizona, état qui est décisif pour tenter de rassembler le plus grand nombre de grands électeurs. Kamala Harris, elle, est en déplacement en Géorgie pour son retour dans cet état clé du Sud-Est. Hier, notamment, elle a accusé son rival républicain de vouloir le pouvoir absolu et de vouloir utiliser l'armée américaine pour des vendettas contre ses adversaires. Écoutez cette prise de parole de Kamala Harris.
Donald Trump a dit ça parce qu'il ne veut pas d'une armée fidèle à la Constitution des États-Unis. Il veut une armée qui lui soit fidèle. Il veut une armée qui lui sera fidèle personnellement. Une armée qui obéira à ses ordres, même lorsqu'il leur ordonnera d'enfreindre la loi ou d'abandonner leur serment à la Constitution des États-Unis. C'est aussi profondément troublant et incroyablement dangereux que Donald Trump invoque Adolf Hitler. L'homme responsable de la mort de 6 millions de Juifs et de centaines de milliers d'Américains. Tout ça est une preuve supplémentaire de qui est vraiment Donald Trump. La question dans 13 jours sera : que veut le peuple américain ?
Donald Trump qui n'a pas encore réagi à cette sortie de Kamala Harris, le candidat républicain qui est également resté silencieux sur ses accusations d'agression sexuelle d'une mannequin rencontrée par l'intermédiaire de Jeffrey Epstein durant les années 90. C'est le quotidien britannique Le Guardian qui révèle ces accusations. Stacey Williams raconte s'être rendue à l'époque chez Donald Trump et à son arrivée, il l'aurait attirée vers elle avant de mettre ses mains sur ses seins, sa taille et ses fesses.
USA 2024.
On continue notre tour d'horizon des principaux thèmes abordés dans la campagne. Il y a une question qui travaille la société américaine depuis 50 ans et qui est l'un des enjeux principaux de cette campagne, c'est la question de l'avortement. On en parle avec l'envoyé spécial permanent de RFI à Washington, Guillaume Nodin, puisque ce sont surtout les démocrates et Kamala Harris qui mettent en avant ce sujet, Guillaume.
Oui, parce qu'ils pensent que c'est un thème à la fois mobilisateur et gagnant pour eux. Et d'ailleurs, l'expérience montre que c'est le cas. Depuis 2 ans et depuis l'annulation par la Cour suprême de la garantie constitutionnelle du droit à l'interruption volontaire de grossesse, à chaque fois que le sujet est venu sur la table, que ce soit sur des référendums ou quand c'était un enjeu dans des élections locales, les électeurs se sont déplacés pour défendre ce droit et le maintenir en place, même dans des États conservateurs. C'est par exemple ce qui s'est passé au Kansas, un État solidement républicain au centre du pays. C'est pour cela que les démocrates en font un enjeu. Il sera question de droit à l'avortement dans une dizaine d'États et dans ces États, les démocrates espèrent que cela va mobiliser des électeurs qui ne se seraient peut-être pas déplacés autrement et que cela va les inciter à voter aussi pour Kamala Harris parce que tout ça, l'élection présidentielle, les élections pour le Congrès ou les législatures locales ainsi que les référendums, eh bien, c'est sur le même bulletin de vote.
Et Guillaume, elle propose quoi, Kamala Harris ?
Elle propose de rétablir dans une loi fédérale les droits qui étaient auparavant garantis par un arrêt de la Cour suprême datant de 1973, l'arrêt Roe v. Wade. Il s'agit donc de ce droit à l'interruption volontaire de grossesse jusqu'au moment de la viabilité du fœtus qui intervient entre 23 et 25 semaines après la conception. Ce qu'elle dit exactement, c'est que si le Congrès vote un texte qui va dans ce sens, elle le signera et le promulguera. Cela a son importance parce que si le droit à l'avortement était garanti par un arrêt de la Cour suprême, c'est justement parce qu'il n'a pas été possible de le faire par la loi. Pour cela, il faut un vote des deux chambres et il faut même une majorité qualifiée au Sénat. Il faudrait avoir 60 sénateurs sur 100. On sait déjà que ce ne sera pas le cas de manière permanente et que ce sera excessivement difficile à négocier à titre ponctuel, car le pays est très divisé sur cette question.
Voilà pour les démocrates et en ce qui concerne les républicains, Guillaume.
Eh bien, Donald Trump veut laisser aux États fédérés le droit de légiférer sur la question, comme c'est le cas depuis la décision de la Cour suprême il y a 2 ans. Une décision dont il revendique la paternité, puisqu'elle a été prise par une majorité de juges conservateurs qu'il a nommés pour 3 d'entre eux. À l'occasion, d'ailleurs, il donne son avis sur ces lois locales. Quand l'Arizona veut rétablir une loi qui date de l'époque du Far West, par exemple, il dit que cela va peut-être un peu loin. En revanche, Donald Trump affirme ne pas vouloir d'une interdiction fédérale du droit à l'avortement qui serait l'exact contraire de la loi proposée par les démocrates et qu'il n'aurait pas davantage les moyens d'imposer. C'est ce que les démocrates l'accusent de fomenter parce que c'est ce qui est dans le projet 2025 d'une organisation conservatrice qui inspire les républicains, mais dont Donald Trump affirme ne rien savoir.
Un décryptage avec Guillaume Nodin, envoyé spécial permanent de RFI à Washington.
RFI, la radio del mundo.
Et on va maintenant parler de l'Uruguay, pays qui vote ce dimanche. Un peu plus de 2,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour choisir leur nouveau président et donc renouveler le Parlement, mais aussi pour se prononcer sur deux plébiscites. On en parle donc avec vous, Théo Conscience. Bonjour Théo.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Un correspondant de RFI dans la région et Théo, des scrutins présidentiels et législatifs ce dimanche pour lesquels la coalition de droite actuellement au pouvoir, eh bien, elle arrive en ordre dispersé.
Oui Stéphane, les cinq partis de cette coalition qui va du centre à l'extrême droite présentent chacun un candidat à la présidentielle. Le mieux placé dans les sondages avec un peu plus de 20% d'intention de vote, c'est Alvaro Delgado, le candidat du Partido Nacional. Il incarne une forme de continuité puisqu'il a été pendant 5 ans le bras droit de l'actuel président Luis Lacalle Pou, qui ne peut pas lui se représenter car la constitution uruguayenne ne permet pas de faire deux mandats présidentiels consécutifs. En face, l'opposition de gauche, le Frente Amplio, qui a gouverné le pays entre 2005 et 2020, espère bien revenir au pouvoir. Son candidat à la présidentielle, Chamán Duhorci, qui a dirigé pendant 10 ans le deuxième département le plus peuplé du pays, est en tête dans les sondages avec entre 40 et 45% des intentions de vote.
Et donc Théo, quelles sont les principales différences en termes de programme entre ces options ?
Alors, globalement, le Frente Amplio pense que l'État doit avoir plus de poids dans la société, tandis que les partis de la coalition gouvernementale privilégient un peu plus le marché. Mais en réalité, on n'est pas non plus devant deux modèles antagonistes. C'est d'ailleurs une caractéristique de la société et de la politique uruguayenne qui sont traversées par de larges consensus, selon Antonio Cardarello, qui est professeur de sciences politiques à l'Universidad de la República à Montevideo.
Il n'y a pas de grande différence, que ce soit sur l'importance de maintenir l'équilibre macroéconomique, sur la place de l'Uruguay dans le monde ou sur la nécessité d'ouvrir de nouveaux marchés. Sur tous ces points, il y a plus de convergence que de divergence.
Mais alors, s'il y a une forme de consensus sur l'économie et sur la politique internationale, Théo, du coup, sur quoi a porté la campagne électorale ?
Eh bien, sur la principale préoccupation des Uruguayens, c'est-à-dire l'insécurité. La coalition au pouvoir a été élue il y a 5 ans sur une promesse de fermeté à l'égard des délinquants. Les peines ont été durcies. La population carcérale a augmenté au point de devenir la plus élevée d'Amérique latine. Mais les résultats sont mitigés. Certains types de délits comme les vols ou les agressions ont diminué, mais ce n'est pas le cas du nombre d'homicides, notamment ceux liés au trafic de drogue, avec un taux qui reste 2 fois supérieur à la moyenne mondiale. Alors, pour y remédier, le gouvernement propose une réforme de la Constitution qui sera soumise à référendum ce dimanche et qui prévoit notamment d'autoriser les perquisitions nocturnes. Mais pour Antonio Cardarello, la coalition au pouvoir a un peu perdu la main sur ce sujet et ça pourrait lui coûter l'élection.
Le gouvernement a tenu sa promesse de durcir les peines, mais maintenant, il y a un phénomène lié aux personnes qui ont de courtes peines, qui n'ont aucune possibilité de réinsertion et nulle part où aller quand ils sortent. Il y a 4000 personnes qui vivent dans la rue à Montevideo, et c'est quelque chose que tout le monde peut voir.
Et on le disait au début de votre intervention, Théo, deux référendums ont lieu en même temps que les élections générales dimanche. Le premier, sur les questions de sécurité, ça vous l'avez mentionné. Et sur quoi porte le second ?
Alors, il s'agit là encore d'une réforme de la Constitution qui porte cette fois sur la sécurité sociale. Elle prévoit notamment de ramener l'âge de départ à la retraite à 60 ans, sachant qu'il avait été repoussé à 65 ans il y a 2 ans par l'actuel gouvernement. Elle prévoit aussi d'aligner les retraites sur le salaire minimum et de supprimer les fonds de pension pour que les retraites soient une compétence exclusive de l'État. Mais cette réforme divise jusqu'au sein du Frente Amplio qui n'a pas réussi à se mettre d'accord sur une consigne de vote. Les secteurs proches du candidat à la présidentielle, Chamán Duhorci, questionne notamment le fait d'inscrire ces mesures dans la Constitution plutôt que dans la loi et s'inquiète surtout du coût fiscal de cette réforme en avançant que cet argent pourrait être destiné à d'autres choses comme par exemple à lutter contre la pauvreté infantile.
Les explications signées Théo Conscience dans le journal d'Haïti et des Amériques, Théo Conscience correspondant de RFI à Buenos Aires et dans la région. Merci beaucoup Théo. On va à présent au Pérou où de nombreux services de transport ont à nouveau fait grève ce mercredi, rejoints par d'autres syndicats comme ceux de commerçants, professeurs, artistes ou étudiants. Manifestation pour demander au gouvernement une action plus ferme face à l'extorsion. Et pour ce délit, le nombre de plaintes a presque quintuplé entre 2021 et 2023. La délinquance, avec des homicides de plus en plus nombreux et violents, est aussi en hausse dans les quartiers périphériques de la capitale, dont des centaines de manifestants sont donc sortis ce mercredi pour protester devant le Congrès, Juliette Chénion.
Devant le Congrès, Richard, mototaxi au nord de Lima, tient à la main une banderole plus grande que lui. Son slogan, non à l'extorsion et aux assassinats.
On est surtout là pour nos frères qui sont tombés, morts pour 50 centimes.
La semaine dernière, un chauffeur et son bus rempli de passagers ont essuyé des tirs dans le quartier de Monica, mère au foyer. L'état d'urgence a pourtant été déclaré il y a un mois.
C'est du vent, il y a du bazar. On ne voit absolument pas plus de policiers.
Les commerçants aussi, comme Angelica, protestent.
Nous avons peur de construire nos maisons, d'ouvrir notre magasin et même de vendre du pain. Car en plus de payer les taxes, on doit payer les délinquants.
Les manifestants demandent le retrait de la loi relative aux crimes organisés, jugée trop laxiste, y compris avec les modifications approuvées par le Congrès en début de semaine.
Les vrais délinquants ont des liens avec le Congrès qui légifère en leur faveur.
Dans la rue, le cortège est clairsemé mais reflète la colère des habitants. D'après un récent sondage, plus de 90% des Péruviens désapprouvent la présidente Dina Boluarte ainsi que les députés du Congrès. Juliette Chénion, Lima, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec nos confrères de La Première et à La Une, malgré le couvre-feu, les nuits restent toujours très agitées en Martinique, notamment sur la côte ouest, Benoît Ferrand.
À Case-Pilote et Chelcher, les deux premières communes que l'on traverse en quittant Fort-de-France et en remontant vers Saint-Pierre, barricades enflammées et affrontements avec les forces de l'ordre font désormais, si l'on peut dire, partie intégrante du quotidien nocturne en tout cas. Écoutez le reportage en direct de Xavier Chevalier ce jeudi matin dans le journal de La Première.
Je me trouve au rond-point de Lance-Gouraud, autrement dit le rond-point Somarec. Et ici, il y a encore une heure à peu près, le rond-point était encore occupé par des militants. Il y a encore les stigmates avec des pneus, des poubelles, des voitures calcinées. Mais les forces de l'ordre sont passées entre-temps et ont réussi à dégager l'accès. Alors, il y a aussi ce magasin d'optique qui est là, à côté de la banque, qui a été fracturé. Il y a aussi, à quelques mètres de nous, vers le rond-point de Batelière, la station essence, qui a été visitée. Alors, elle est ouverte, mais c'est encore compliqué d'y rentrer puisqu'il y a encore beaucoup de choses par terre et puis ils attendent les constatations des forces de l'ordre. Ce matin, à 6h, nous étions bloqués de Pointe de Jam jusqu'à Madiana, mais pour l'instant, la circulation a été réparée. Nous avons pu aussi nous rendre jusqu'à Case-Pilote, où là, la circulation est extrêmement dense, compliquée, voire quasi impossible. Des barrages filtrants sont installés à Fonlahe, qui sont d'ailleurs enflammés déjà depuis à peu près 6h30. Et puis, pareil, à Case-Pilote, où là, les barrages ne sont pas encore enflammés, mais les manifestants nous ont dit qu'ils allaient de nouveau enflammer d'ici quelques minutes. Donc voilà, situation très tendue, en tout cas ici dans le nord caribe.
Un autre sujet, le projet gouvernemental de taxer les entreprises du secteur maritime qui réalisent plus de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires fait grincer quelques dents du côté de la CMA-CGM. La compagnie se dit prête à faire un petit effort mais annonce d'ores et déjà que si l'effort en question lui semble trop lourd, elle renoncera au développement des ports de la Guadeloupe et de la Martinique. Explication et précision de Éric Bagassien de la Première Guadeloupe.
C'est en décembre 2023 qu'un accord est signé entre le gouvernement et la compagnie maritime pour accroître la capacité des deux ports. Coût total de l'opération, 336 millions d'euros et une augmentation espérée des volumes de marchandises traités. L'objectif final, faire de la Guadeloupe et de la Martinique deux hubs capables de desservir et de reverser des marchandises sur le reste de la Caraïbe et l'Amérique du Sud. Le PDG de la compagnie s'est dit favorable à l'effort collectif pour redresser les finances publiques, mais dans des conditions justes et limitées. 500 millions en 2025 et 300 en 2026. La menace d'interrompre les investissements en Guadeloupe et Martinique dans le hub portuaire semble être plutôt un coup de pression, car difficile en effet pour une multinationale de renoncer à des profits aussi colossaux.
Affaire à suivre, comme on dit. Bon après-midi, à demain.
Merci beaucoup Benoît Ferrand, très bon après-midi à vous aussi et on vous retrouve effectivement demain. Et c'est ainsi que se referme RFI Midi, le journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Vincent Biteau à la réalisation. Merci également à Emmanuel Klotz à la rédaction en chef. On se retrouve donc demain à partir de 11h temps universel pour une nouvelle édition d'Afrique Midi. D'RFI Midi, pardonnez-moi, il y aura aussi Afrique Midi. Tout de suite, Pascal Paradou de vive voix depuis Berlin.
Les dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
La Géorgie est à un tournant de son histoire. Ses électeurs sont appelés aux urnes samedi pour un scrutin à valeur de référendum pour ou contre le rapprochement avec l'Europe. Dans ce contexte se livre une intense bataille informationnelle. On en parle avec la chercheuse Apolline Roy sur place à Tbilissi pour Géode, le centre de géopolitique de la datasphère.
Les dessous de l'Infox avec Sophie Malibaud, tous les vendredis à partir de 17h30 TU sur RFI.